Bonjour et bienvenue à Tous aux oiseaux, un podcast qui parle des oiseaux du Québec en français. Gaspard Tanguay-Labrosse au micro, ce podcast est une production de Québec Oiseau. Le mois de mai est déjà derrière nous et le mois de juin bien entamé. Pour les régions du sud du Québec, ça veut dire que la saison de nidification est déjà commencée et même les régions les plus au nord et à l'est voient leurs derniers arrivants poindre le bout de leur bec. J'espère pour tout le monde que cette haute saison de l'observation d'oiseaux pour le Québec a été propice, que vous avez pu profiter pleinement de la migration, que vous avez observé des oiseaux colorés en grand nombre, peut-être même que vous avez eu une prime coche ce printemps. Pour plusieurs amateurs, c'est la plus belle saison de l'année qui prend fin. Pour certains professionnels, par contre, c'est aussi une saison extrêmement occupée et une occasion en or d'effectuer certains relevés. Partout au Québec, des scientifiques se sont mobilisés pour profiter des grands passages d'oiseaux pour recueillir des données. C'est entre autres la mission de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac qui suit les passages migratoires avec beaucoup de rigueur depuis des années. Aujourd'hui, notre émission va être entièrement consacrée à cette institution. On va parler d'abord à son directeur Pascal Côté de la mission de l'Observatoire, des données qu'il récolte et de la saison 2020. On va également rencontrer quelqu'un qui a été sur le terrain tous les jours ou presque depuis les débuts de la migration, Laetitia Desbordes, qui va nous parler de son travail, de ce que ça fait de passer ses journées à regarder les oiseaux et à les compter. Alors, je rejoins au Grande Bergeronne Pascal Côté. Pascal Côté est directeur de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Monsieur Côté, merci beaucoup d'accepter de faire cette entrevue avec nous.
Ça fait plaisir.
Alors, on va commencer par le commencement. Plusieurs ne sont peut-être pas familiers avec l'idée de ce qu'est un observatoire d'oiseaux. En quoi ça consiste, un observatoire d'oiseaux? Qu'est-ce que ça fait?
Ouais, bien, les observatoires d'oiseaux, comme le nôtre à Tadoussac, c'est essentiellement des organismes qui travaillent en recherche sur les oiseaux. Et la principale mission, c'est de faire des suivis migratoires, donc des suivis d'oiseaux en migration. Donc, ça se passe essentiellement en période de migration, donc au printemps et ou à l'automne. Et le but de ces observatoires-là, en général, c'est de cumuler de la donnée sur une longue période de temps, le plus longtemps possible, pour pouvoir établir des tendances de population, donc de déterminer si les espèces sont en augmentation, en déclin stable, donc et fournir ces données-là là, à différents gouvernements provincial ou fédéral là, pour qui utilisent ces données-là pour déterminer effectivement si il y a un souci à avoir avec certaines espèces ou non.
OK. Puis quand on pense à un observatoire astronomique, par exemple, on sait qu'il faut que ça soit situé dans une région où il n'y a pas beaucoup de lumière ou généralement en altitude à cause de l'atmosphère terrestre. Est-ce que dans le cas d'un observatoire d'oiseaux aussi, l'emplacement va être important? Est-ce qu'il y a un endroit particulier, une raison qui fait que Tadoussac est un si bon endroit pour installer un observatoire d'oiseaux?
Oui, tout à fait. En fait, les observatoires, d'une part, je vais le préciser pour ceux qui connaissent pas trop le principe des observatoires d'oiseaux, souvent les gens même qui arrivent pour la première fois dans le cas ici qui nous concerne, c'est les dunes de Tadoussac, s'attendent à avoir souvent un bâtiment, un peu comme justement un observatoire astronomique où là ils peuvent rentrer, il se passe des activités, ce qui est pas le cas. Là. Donc, il y a certains observatoires, oui, il y a des stations de bagages où les gens peuvent venir voir les activités de bagages, mais en général, c'est vraiment le nom d'un organisme. Donc, nous, aux dunes de Tadoussac, on a une petite station de bagages qui est en fait un laboratoire mobile. Et on a aussi un belvédère d'observation qui est un belvédère tout à fait classique là, où les gens peuvent aller. Donc, nous, c'est vraiment les suivis qu'on fait sur place. Et en fait, oui, les sites qui sont propices pour faire ce genre de suivi-là, évidemment, ce sont les endroits où les oiseaux vont se concentrer beaucoup. Et les endroits où les oiseaux se concentrent essentiellement à travers le monde, c'est le long des grands cours d'eau, des grandes étendues d'eau. Dans le cas de l'Amérique du Nord, ben, il y a beaucoup évidemment le long des océans, donc l'océan Atlantique, la côte Atlantique, le fleuve Saint-Laurent et les grands lacs. Et en Europe, évidemment, il y a plein de chaînes de montagnes où il se passe des suivis migratoires aussi, là, et le long des différentes mers en Europe. Mais c'est ça. Donc, essentiellement, c'est des endroits où les oiseaux vont se concentrer. Dans le cas qui nous concerne, nous, c'est beaucoup les oiseaux de proie, mais finalement, avec les années, on s'est rendu compte que c'est un immense corridor là, pour les passereaux aussi. Là. Donc, on peut faire des suivis des deux groupes d'espèces. Là.
Puis, ça fait combien de temps que vous faites des suivis à Tadoussac?
L'observatoire fait partie d'un organisme qui s'appelle Explo Nature. Et pour les plus vieux qui nous écoutent, là, ça s'appelait les jeunes Explo. Donc, c'était des camps naturalistes qui étaient donnés, là, entre autres, sur la Côte-Nord pendant les années, à partir des années 50 jusque dans les années 80. C'est Jacques-Hubert Zabal, qui est maintenant le professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi. Et Jacques est un ancien campeur, donc qui est venu dans les années 70 et qui a été formé en l'ornithologie par l'organisme qui chapeaute l'Observatoire, donc par les jeunes expos à l'époque. Et lui était venu sur la Côte-Nord, avait vu qu'il y avait vraiment un potentiel à l'époque pour les oiseaux. Et en fait, c'est un ornithologue de la place qui s'appelle Yvan Duchesne, qui est un résident essentiellement, que lui avait observé en 90 un gros passage, ce qu'on pense être des buses à queue rousse. Lui, il ne savait pas, il a vu des gros oiseaux de poils, il pensait que c'était des buses. Et Jacques, lui, a lu ça dans la revue Québec Oiseau l'année suivante. Et finalement, a décidé d'aller voir. Lui, il était à Chicoutimi, donc il a décidé avec des gens du club d'ornithologie du coin, donc de descendre à Tadoussac. Et donc, on commençait à faire des suivis de cette façon-là. En 91, et ont vu vraiment le potentiel assez pour mettre un observatoire. Là. Donc, au début, c'était uniquement les rapaces. Donc, c'était vraiment un observatoire qui était dédié à suivre les mouvements de rapaces diurnes, donc les buses, les cresses, ben, tout ce qui est faucon, évidemment, les gros formats, pigargue, aigle royal et autres. Là. Et donc, ça a été ça là, pendant les premières années. Puis ensuite, là, il y a une station de bagages aussi qui a été rajoutée en 96. Là.
Et puis maintenant, vous faites le suivi de quelle, disons, quelle famille d'oiseaux en particulier, parce que les rapaces, c'est encore le cas. Est-ce que vous avez rajouté plus d'espèces ou plus de groupes à votre palmarès?
Tout à fait. En fait, maintenant, en fait, en partir de 96, en fait, dès que la station de bagage a été mise en place, le premier du premier programme qui a été mis de l'avant, c'est celui du bagage génital. Et ils l'ont testé un peu par hasard, en fait, un peu par chance, je dirais, en 96. Ils ont aussi décidé de mettre un système d'appel. Donc, pour pouvoir faire ce genre de suivi-là, évidemment, c'est de nuit, parce que les nictales migrent de nuit. Et en forêt boréale, on sait qu'il y a deux espèces de nictales. Il y a la petite nictale puis la nictale de Tegman. Et donc, l'équipe qui était là à l'époque avait décidé, donc la façon que ça fonctionnait, ce genre de suivi-là en général, c'est qu'on met des filets japonais et aussi on met un système d'appel pour attirer les espèces.
Ça consiste en quoi un filet japonais? Là, juste, les gens n'ont peut-être pas une idée.
Tout à fait, c'est un élément important. Mais un filet japonais, c'est des filets qui ont été créés là, il y a plusieurs dizaines, je pense même que ça date de près de 100 ans maintenant. Donc, c'est des filets qui étaient à la base utilisés pour attraper les oiseaux, pour les chasser. Et maintenant, on a vu un potentiel là, pour la recherche, là, ça fait plusieurs années de ça. Et donc, c'est un filet qui est fait généralement en nylon, donc très, très fin. Ça ressemble un peu à un filet de pêche qui a 4 ou 5 poches. Donc, c'est assez c'est tendu, mais en même temps, les poches font en sorte que les oiseaux peuvent tomber dans les mailles du filet qu'on dit. Donc, c'est vraiment comme des petits fils de pêche. Évidemment, ça ne blesse pas les oiseaux. Et donc, les oiseaux, là, vont s'en mêler dans les mailles du filet. Et nous, évidemment, on est une équipe là, formée de bagueurs et de bénévoles qui viennent et évidemment vont extraire les oiseaux, ce qu'on dit démailler les oiseaux. Et vont les amener à la station après. Donc, on utilise, dépendamment de la grosseur de l'oiseau, des filets qui ont des mailles de 30 mm, ça c'est les petits passereaux, du 60 mm. Donc, ça c'est pour les plus gros oiseaux comme les nictales. Donc, essentiellement, on met ce genre de filet-là, nous, dans les dunes de Tadoussac. On met un système d'appel aussi où on émet le chant de l'espèce. Et les oiseaux sont attirés, donc se capturent dans les filets. Et en 96, donc quand ils ont testé, au début, c'était la petite nictale. Et on dit ça, bon, t'as fort à Boréal, essayons la nictale de Tegman. Et ils ont capturé un nombre vraiment surprenant dès la première année de la nictale de Tegman. Donc, on est devenu finalement un des premiers projets là, dédiés à la nictale de Tegman. Et ça se poursuit toujours aujourd'hui. Donc, le suivi a été fait de façon continue depuis 1996. Et parmi les autres espèces qu'on a rajoutées aussi, bien là, avec le bagage, on s'est beaucoup spécialisé aussi pour les fringillidés, donc la famille des d'urbec, cizerin, tarin, chardonneret. Et nous, on capture vraiment ces espèces-là qui passent. Là. En fait, le Tadoussac, on peut le dire là, tout à fait humblement, là, c'est probablement le meilleur endroit au monde pour pouvoir voir des grands passages de fringillidés. Et on a des chiffres records là, qui ont jamais été vus ailleurs en Amérique du Nord ou en Europe, là, de passages journaliers ou même totaux annuels qui sont tout à fait fabuleux. Là. Donc, des chiffres là, hallucinants. Et donc, nous, on fait ce suivi de ces espèces-là aussi. Là.
Puis, donc, les oiseaux qui, évidemment, qui passent, où est-ce qu'ils s'en vont au printemps, puis d'où est-ce qu'ils arrivent à l'automne? Donc, c'est quoi l'habitat typique ou les régions typiques d'où proviennent ces oiseaux-là qui vont passer par Tadoussac?
Bien, c'est sûr qu'à l'automne, ce que nous, on suit, c'est des oiseaux qui ont niché ce qu'on appelle la péninsule de Québec-Labrador. Donc, c'est essentiellement des oiseaux qui descendent, qui ont soit niché en forêt boréale, à l'est de la rivière Saguenay, vers la péninsule, justement, du Labrador, ou même, justement, en montant vers le nord. Là. Donc, ça peut aller jusque dans le nord du Québec ou même en Arctique. Et au printemps, bien, c'est l'inverse. Donc, c'est des oiseaux qui, évidemment, qui ont migré vers le sud et là, qui remontent dans leurs aires d'indication, donc que je viens de vous nommer. Donc, ils vont arriver, mais c'est beaucoup plus dispersé. La concentration à l'automne, en fait, les oiseaux descendent. Ce qui se passe, c'est que, évidemment, vont descendre en forêt boréale, vont arriver au Saint-Laurent, donc que ce soit en basse côte nord ou en moyenne côte nord. Et là, ensuite, là, au lieu de traverser l'estuaire ou le golfe qui est immense, vont longer la rive nord de Saint-Laurent. Donc, ça fait finalement un goulot d'étranglement qui descend jusqu'à Tadoussac. Mais à Tadoussac, finalement, les oiseaux n'arrêtent pas là. Donc, ils vont continuer jusqu'à Québec. Puis ensuite, à Québec, c'est un peu plus flou. Là. Les oiseaux ont l'air de se disperser un peu plus vers les Appalaches. Donc, ils ne vont pas nécessairement continuer en suivant l'axe là, du fleuve. Mais vraiment, là, tout ce qui est Charlevoix et Côte-Nord, c'est vraiment un immense corridor. Et ça fait en sorte qu'on peut suivre des très, très, très grands nombres d'oiseaux. Mais au printemps, les oiseaux, évidemment, arrivent en longeant, peuvent arriver de la côte atlantique ou en traversant aussi le continent complet, en traversant les Appalaches. Donc, ils arrivent dans le sud du Québec. Ensuite, vont se disperser sur la côte nord. Et donc, le signal est beaucoup plus faible, je dirais. À part, évidemment, quand il y a des grosses, ce qu'on appelle l'immigration inverse ou des corrections migratoires, où là, il peut vraiment avoir des oiseaux qui peuvent se concentrer le long de la côte. Dans un phénomène qu'on tente de comprendre là, depuis quelques années.
Mais c'est certain, justement, parce que vous parlez de phénomène, bon, on va parler un petit peu des données que vous ramassez. C'est certain que les oiseaux, bon, c'est quand même assez imprévisible. Il y a beaucoup de facteurs, j'imagine, qui peuvent rentrer en ligne de compte. Comment on fait pour s'assurer que ces données-là, d'une année à l'autre, vont être fiables? C'est quoi la démarche scientifique derrière pour s'assurer que, finalement, vous avez vraiment le maximum d'informations puis que ça ne sera pas... Donc, vous avez le moins de facteurs possibles qui rentrent en compte dans des variations de population d'oiseaux, par exemple.
C'est sûr qu'il y a des facteurs météo qui sont vraiment importants. Donc, nous, évidemment, on a tout ça. Quand on fait les suivis, on note à chaque heure, c'est quoi la météo, parce que ça, évidemment, ça peut évidemment jouer. Mais évidemment, ce biais-là est là année après année. Donc, évidemment, ça amène un certain biais dans les données, mais il est considéré, puis on peut le traiter, ce biais-là. Donc, tout ce qui est facteur météo. Ensuite, le biais le plus commun, évidemment, qui peut arriver dans ce genre de suivi-là, c'est un biais au niveau de l'effort d'observation. Donc, s'il y a vraiment un effort là, qui est très variable d'une année à l'autre, c'est-à-dire, exemple, qu'au lieu de faire un suivi sur 3 mois, on en fait un sur 2 mois par manque de financement, par exemple. Souvent, c'est pas par bonne volonté, là, c'est pas par volonté, en fait, là, qu'on décide de changer l'effort. Mais ça peut se produire pour plein de facteurs. Mais évidemment, là, ça amène un biais. Nous, ce qu'on tente de faire, c'est de faire des suivis qui sont le plus standardisés année après année. Donc, dans le cas du bagage, par exemple, pour le nictal, vu que c'est un suivi de population à long terme, mais évidemment, si les filets sont mis au même endroit, suivant un effort qui est évidemment qui suit toujours les mêmes journées pendant l'année, donc exemple du 5 septembre jusqu'au 30 octobre, à chaque année, avec un effort à chaque nuit qui est le même depuis 96. Donc, ça élimine vraiment tout ce qui est biais d'effort. Donc, et les données deviennent beaucoup plus fiables de cette façon-là.
Comment est-ce que vous traitez, par exemple, bon, ça arrive des fois qu'un printemps va être tardif ou hâtif, ou est-ce que vous avez le droit, entre guillemets, je sais que c'est pas une question de droit, mais de vous ajuster dans la façon dont vous faites les suivis? Si vous savez déjà, par exemple, que les oiseaux vont arriver un peu plus tard cette année ou un peu plus tôt, Est-ce que ça va venir brouiller les données ou est-ce que vous pouvez quand même manipuler un petit peu les journées? Hein?
Bien, c'est sûr que le plus important dans ce genre de situation-là, c'est évidemment d'avoir un suivi qui permet de couvrir la plus grande fenêtre possible de migration, incluant justement le fait qu'il y a certaines années, ça peut arriver plus tôt, certaines années plus tard. Comme cette année, nous, en fait, on fait un suivi au Bergeron, on a une station de bagages qui est dédiée aux passereaux. Et nous, on commence le 13 mai, mais c'est vraiment, on suit vraiment les nids tropicaux. Donc, ce qui est bruant, on sait que, en fait, ce qui arrive à la fin avril, il y a beaucoup trop de neige sur la Côte-Nord pour essayer de faire un suivi là, à la fin avril. Là. Je pense qu'il y avait encore un bon 3 ou 4 pieds de neige là, à la fin avril. Donc, c'est vraiment ardu de vouloir mettre ce genre de suivi-là en place. Donc, nous, on a vraiment dédié notre projet aux néotropicaux, donc toutes les passereaux qui arrivent des tropiques, donc que ce soit les parulines, les viréos, les moucherolles. Mm-hmm. Et ces espèces-là, sont assez régulières sur leur date d'arrivée. Il peut y avoir effectivement un phénomène où il peut y avoir une rétention qui se fait parce que la météo n'est pas bonne, mais ça va être vraiment de quelques jours, de 2-3 jours. Donc, il n'y aura pas un délai de 2 semaines du fait que la météo n'est pas bonne. Donc, c'est très, très rare. Donc, les oiseaux suivent vraiment un patron qui est plutôt régulier, je dirais. Donc, c'est ce qu'on fait. Donc, on essaie de garder la même fenêtre migratoire pour éviter les biais, mais on peut comprendre qu'effectivement, des fois, il peut y avoir un décalage, mais nous, comme à l'automne aussi, là, pour les rapaces, là, on commence le 24 août puis on finit le 25 novembre. Là, donc, c'est 3 mois de suivi.
Ah, vous couvrez large.
Donc, c'est très, très large. On oui. prend le plus large possible.
Puis quand vous parlez, oui, juste les néotropicaux, dans le fond, vous voulez dire que vous ne suivez pas vraiment, par exemple, les oiseaux qui vont partir du nord du Québec puis qui vont descendre dans le sud du Québec quand il n'y a pas beaucoup de nourriture parce que l'hiver est particulièrement rude, par exemple, ou qu'il n'y a pas une bonne production semencière.
Oui, bien, les fringidés suivent ça. Ce qu'on suit moins, c'est vraiment tout ce qui est bruant. Au printemps, je parle évidemment à l'automne avec nos relevés visuels. Donc, ce que je ne mentionnais pas tantôt, c'est que nos relevés visuels peuvent suivre quand même aussi ces espèces-là. Donc, la personne, parce que c'est une seule personne qui est aux îles Tadoussac qui compte les rapaces à l'automne. Okay. Et au printemps aussi, mais à l'automne, donc cette personne-là suit les rapaces, mais aussi compte tout ce qu'il y a dans le ciel, donc incluant les fringidés, les bruants, tout ça. Donc ça couvre quand même assez bien. Mais au printemps, comme je disais, à cause de la neige, les bruants arrivent quand même beaucoup plus tôt, là, donc à fin avril, début mai. Et nous, on a décidé de juste laisser tomber ces espèces-là pour le printemps. Là. Mais puis pour ce qui est des fringillidés, oui, on les suit très, très bien à l'automne parce que justement, on est toujours jusqu'au 25 novembre. Mais évidemment, il y a plein de facteurs qui font en sorte que des fois, on peut les manquer parce qu'effectivement, il y a des très, très bonnes années semencières. Les oiseaux vont rester en forêt. Mais ils sont là dans le signal, dans le sens qu'on a des années où on n'a à peu près pas d'individus et on sait que c'est lié aux semences. Là.
Est-ce qu'il y a des oiseaux en particulier pour lesquels le suivi de Tadoussac est particulièrement important? Par exemple, des espèces menacées pour lesquelles c'est vraiment important d'effectuer comme ça un suivi annuel rigoureux?
Bien, tout ce qui est rapace. Au Québec, là, il y a 4 suivis de rapaces qui se font. Il y a le nôtre, il y a celui à Rimouski qui est fait par l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski. Puis il y a aussi 2 suivis qui sont faits un printemps à l'automne. Par Bob Banus puis Mabel McIntosh, qui sont faits depuis les années 80, sur une base volontaire bénévole. Donc, c'est pas beaucoup. Il y a des États américains là, qui ont 15-20 stations de rapaces. Donc, évidemment, c'est pas nécessairement des espèces menacées. Bien, on en a à travers ça. Évidemment, là, on a l'aigle royal, le pigargue à tête blanche et le faucon pèlerin qui sont listés en ce moment, donc qui sont vulnérables à l'échelle du Québec. Et donc, on fait un suivi de ces espèces-là, mais au-delà même de que ce soit menacé ou non, juste le fait de suivre, il faut comprendre que les suivis de la faune aviaire au Québec, là, en dehors de la classe des zonicheurs, qui est vraiment un projet titanesque qui ne peut pas se faire de façon régulière.
Qui se fait comme aux 25 ans pour l'instant, que l'on sache entre le premier et le deuxième.
Exactement. Donc, avoir un signal qui est, disons, rapide, un atlas, ça va pas, c'est pas nécessairement le meilleur outil. Ensuite, il y a les BDS, donc les relevés des oiseaux nicheurs. Mais encore là, il y a des biais reliés au fait que les routes, il y en a presque pas en forêt boréale. Donc, il y a plusieurs éléments limitants. Il y a évidemment les recensements des oiseaux nicheurs aussi. Aux données. Donc, mais l'importance de tout ça, puis évidemment, maintenant, il y a eBird et EFOC qui peuvent servir pour les tendances. Mais le plus important, c'est d'avoir une multitude de suivis comme ça, où on peut combiner les données et vraiment avoir une meilleure idée des tendances. Donc, d'être présent et de faire ce genre de suivi-là a vraiment une importance. Les gouvernements le reconnaissent là, essentiellement que les observatoires ont un rôle essentiel pour avoir des données. Là. Sans nous, ce serait un pas important là, de données qu'il n'y aurait pas. Et c'est surtout un suivi qui se fait à faible coût. Hein. Donc, au lieu d'aller sur le territoire, aller parcourir des grands, comme exemple dans le cadre de la classe, où les gens doivent, c'est beaucoup d'équipes, c'est beaucoup de logistique. Comme je vous disais, moi, c'est un recenseur qui compte une seule personne pendant 3 mois. Là. Donc, c'est vraiment à faible coût et à faible logistique là, pour avoir des données de qualité. Là.
Oui, puis j'imagine c'est ça. Donc, finalement, quand on présente des données qui sont inquiétantes pour une population d'oiseaux, bien, plus on a de données qui pointent dans la même direction, plus c'est probant puis plus c'est convaincant.
Tout à fait.
J'aimerais peut-être que vous nous parliez un petit peu de l'année 2020. Là. Je sais qu'il y en a plusieurs qui vont se demander, bon, là, on a une année vraiment particulière, disons, au niveau social, puis on aimerait savoir peut-être qu'est-ce que ça raconte là, pour l'instant. Je pense que vous faites encore du suivi jusqu'au 6 juin, si je ne me trompe pas.
On est sur la fin, en fait, même, je pense, le 6 annonce la pluie, donc on va terminer le 5, parce qu'on ne peut pas faire de suivi là, quand il pleut. C'est les rares conditions où on a des congés, en fait. Sinon, c'est continu à tous les jours. Et ce printemps, en fait, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont appelé. En fait, j'ai eu 3-4 appels différents pour me demander si les mesures prises justement de confinement ont eu un impact sur les oiseaux. Donc, il y a vraiment comme une volonté de, parce qu'évidemment, on a vu ça aux nouvelles, hein, qu'il y avait des fois des grands mammifères qui étaient retournés dans les milieux plus urbains.
Oui, puis les gens ont vraiment besoin d'espoir en ce moment. Alors, ils espèrent pouvoir dire ça a servi finalement le confinement, les oiseaux ressortent. Hein.
Tout à fait, mais en fait, la réponse, c'est qu'il n'y a pas. En fait, moi, j'ai peine à croire que ça a eu un impact sur les oiseaux parce que je pense que beaucoup de gens savent là, que les principales menaces qui sur les oiseaux, que ce soit en milieu urbain ou de façon générale là, à travers l'Amérique du Nord, bien, la principale cause de mortalité des oiseaux, c'est les chats et les collisions avec les bâtiments. Et je vois mal comment, dans le contexte actuel du confinement, ces menaces-là ont diminué. En fait, vraiment que ça a zéro, ça n'a absolument rien changé. Ce qui a changé, par contre, ce qui est intéressant, c'est plus peut-être l'approche des gens par rapport aux oiseaux. C'est que là, on a eu beaucoup de temps pour observer les oiseaux. Et là, les gens ont remarqué, des fois, peut-être qu'il y en a même qui se sont mis à l'ornithologie parce qu'ils cherchaient des activités. Et là, on a commencé justement à observer les oiseaux et de voir vraiment qu'il y avait un potentiel des fois dans leur cours ou ailleurs. Donc, je pense que c'est plus à ce niveau-là, donc au niveau de recruter des nouveaux ornithologues qui a eu un impact. Au niveau de des populations d'oiseaux, je pense pas que ça a eu un impact. Comme printemps, pour revenir à votre question initiale, c'est un printemps qui a été bizarre à la base, mais il y a quelque chose qui devient un peu plus inquiétant qu'on a hâte de voir à l'automne, là. C'est vraiment au niveau des bruants.
Ah oui.
Peut-être les gens l'ont remarqué, justement, si les gens avaient du temps. C'est que on n'a pas eu de gros arrivages de bruants cette année. Nous, on avait une hypothèse, puis ça a été le cas aussi l'automne passé. Et donc, les joncos, entre autres, qui habituellement, à la fin avril jusqu'au début mai, des fois, on peut en avoir partout là, dans nos parterres de cour, là, ceux qui mettent des mangeoires savent. Donc, il y a certaines années, tu peux avoir presque 100 joncos dans ta cour.
Mm-hmm.
Et cette année, ça ne s'est pas produit. Puis l'automne dernier, on pensait c'est qu'il y avait beaucoup de semences, les arbres avaient produit beaucoup de graines et on se disait comment que les oiseaux sont simplement restés en forêt puis ont descendu un peu incognito sans passer aux mangeoires et là vont remonter au printemps. Et alors que là, ce printemps, puis je suis pas le seul à avoir remarqué, là, j'ai demandé à plusieurs ornithologues à travers le Québec là, s'ils avaient observé des mouvements de jonco ou même de bruants à couronne blanche, qui peuvent être très nombreux. Et la réponse est non. Il n'y en avait pas aux mangeoires. Et l'hypothèse d'erreur, ben, ils sont sûrement dans le bois. Ben, moi, je suis allé me promener dans le bois, je pense pas le seul, puis il n'y en avait pas non plus dans le bois. Donc, il y a une petite inquiétude. On a hâte de voir à l'automne prochain, là, parce que le cycle des semences des arbres, c'est aux 2 ans. En général. Donc, on s'attend vraiment que ce soit une année semencière plus faible au niveau des arbres. Donc, en théorie, les oiseaux devraient avoir besoin davantage d'aller arrêter aux mangeoires cet automne. Et donc, on a hâte de voir justement, nous, avec nos stations de bagages aussi, donc on a une station à cap tourmente aussi, à Tadoussac, c'est quoi que ça va indiquer au niveau des données? Est-ce que c'est un déclin réel ou c'est seulement effectivement que les oiseaux ont passé un peu incognito et qu'on les a tout simplement manqués? Donc, ça, c'est il y a ça. Sinon, pour les parulines, les autres néotropicaux pour le printemps, je dirais que c'est un printemps qui était vraiment en deux phases. Là, très, très froid. Il y avait un petit retard. Après, il y a eu un gros coup de chaleur. Donc, les oiseaux ils ont vraiment, ce qu'on pense, qu'ils ont vraiment profité de la fameuse semaine là, de canicule en mois de mai, après de la neige une semaine avant, pour migrer massivement en quelques nuits. Et nous, on l'a vu vraiment là, que ça a eu un impact. Là. Les oiseaux sont arrivés là, très, très rapidement d'un coup parce que les vents étaient hyper favorables là, dans toute l'est du continent. Puis là, depuis, c'est assez tranquille. Donc, on pense vraiment que ça, tout a passé en 4-5 jours à peu près. Là. Je parle des néotropicaux.
Nous, on a vu un peu la même chose à Montréal, c'est-à-dire qu'il a fait très froid. Alors, on les a attendus. Puis tout d'un coup, les vents ont été du sud. Alors, on a eu un passage vraiment éclair.
Bien, c'est ce que j'ai entendu dire aussi. Puis nous, c'était vraiment la même chose. Mais ça reste qu'on a eu des très bonnes matinées ici à Tadoussac. Je veux dire, dans certains lieux, je pense qu'à Montréal, c'est le même coup. Certaines nuits, certains matins, quand les gens sont sortis, ont pu voir vraiment des bons arrivages de parulines, mais c'est, contrairement à l'année passée où là il y a eu du froid dans l'est du Québec, les oiseaux avaient attendu, je pense, plus qu'une semaine à Montréal. Puis je me souviens que les gens disaient au jardin botanique, les gens n'avaient pas vu ça depuis des années, concentration de parulines comme ça dans le coin de Montréal. Ça s'est pas produit cette année. Donc ça, c'est vraiment des phénomènes liés à la météo, plus que nécessairement des fois des tendances de population. Donc il faut faire attention avec les données sur du très court terme comme ça, dire
évidemment.
Ah ben là, tout d'un coup, il y a une augmentation ou il y a un déclin. Là.
Oui, d'accord. Ben, écoutez, M. Côté, merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir accepté de donner cette entrevue. C'était vraiment très, très intéressant. Puis j'espère que les auditeurs aussi vont avoir apprécié.
Mais ça fait plaisir.
Alors, je rejoins au Bergeronne Laetitia Desbordes. Laetitia Desbordes, vous êtes recenseuse aux dunes de Tadoussac, donc vous travaillez pour l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. D'abord, merci d'accepter de faire cette entrevue avec nous.
Bonjour, merci beaucoup.
Alors, on aimerait savoir déjà, qu'est-ce que c'est votre travail? Comment vous faites le recensement? De quoi a l'air votre journée type?
Oui, tout à fait. Donc, je travaille à l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, aux dunes exactement, à partir du belvédère Yvan Duchesne, situé aux dunes à 5 km au nord-est du village. Donc, la journée commence une demi-heure après le lever du soleil pendant 5 heures consécutives. Je relève tous les oiseaux observés sur le site. Mais mon attention se porte prioritairement sur les migrateurs. Donc, lors d'un grand passage migratoire, je dénombre les oiseaux jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle au maximum jusqu'à 4 heures en après-midi. Donc, généralement, passé 7 heures, peu d'oiseaux continuent leur migration. En fin de journée, je vais compiler les données afin que ce soit à jour.
Donc, passé 7 heures le matin, en général, la migration est déjà terminée.
Pas forcément. Ça peut se déclencher vraiment en journée. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est plus à l'aube où il peut y avoir un mouvement qui commence déjà. Mais parfois, c'est un petit peu plus tard dans la journée.
Puis bon, pour les gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac, moi, des fois, je vois passer des listes avec des nombres d'oiseaux. Puis des fois, vous avez vraiment des mouvements absolument spectaculaires, des centaines ou même des milliers d'oiseaux. Donc, comment est-ce que vous faites pour compter, par exemple, 2000 individus d'une espèce de paruline?
Oui, en effet, ça peut être surprenant. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dunes offrent un paysage vraiment panoramique qui surplombe le Saint-Laurent, qui permet d'avoir une excellente vue. Donc, le fleuve est considéré comme un obstacle naturel pour les oiseaux. Donc, ils vont longer les côtes. C'est à ce moment-là qu'on va dénombrer les oiseaux en passage. En fait, je vais comme compter et identifier les oiseaux, ce qui s'effectue par l'observation et par l'écoute. Donc, les oiseaux les plus éloignés, par contre, sont identifiés à la famille, comme les parulines, par exemple, on va noter paruline SP, parce qu'il est vraiment difficile sous certaines conditions d'identifier chaque oiseau à l'espèce. On peut être à contre-jour ou encore la distance. Pendant les grandes migrations, je suis rejointe par l'équipe de l'observatoire qui me rejoignent sur le site et on divise le site, ce qui est comme plus facile. Donc, on va compter les oiseaux à l'unité. Mais pendant les grandes journées, par exemple, on va plus les dénombrer par dizaines, selon l'intensité, rarement plus, avec l'aide de compteurs. Donc, à chaque heure, je vais comme inscrire les observations en notant les espèces, le nombre et la direction des oiseaux.
OK. Puis est-ce qu'il y a des... je sais qu'avec M. Côté, on a parlé du fait qu'il y a sous certaines conditions météorologiques que vous n'allez pas faire le recensement, mais quelles sont les conditions dans lesquelles vous décidez aujourd'hui, on ne fera pas de recensement?
Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, le cas des journées où il y a de forts vents ou une pluie soutenue, on sait très bien que les oiseaux ne migreront pas. Mais il y a certaines conditions météorologiques qui mènent à la création d'une migration inverse.
Est-ce que vous le savez déjà le matin, par exemple, vous vous levez puis vous vous dites « Ah, aujourd'hui, là, on a une bonne journée entre les mains » puis vous savez déjà avant de vous rendre aux dunes que ça va être excellent ou vous avez des surprises des fois?
Exactement. Dans le fond, on regarde énormément la météo. Donc, on peut voir ce qui se passe la veille. Les conditions idéales, ça serait d'avoir des vents favorables nocturnes, c'est-à-dire des vents qui proviennent du sud-ouest, qui aident les oiseaux à parcourir leur migration sur de longues distances. Et pour créer des conditions parfaites en fin de nuit ou en matinée, l'arrivée d'un front froid avec des vents provenant du nord-ouest permettront d'obtenir une migration inverse. Donc, on peut prévoir ce mouvement en fonction des patrons météo. Mais on a toujours des surprises. Donc, ça arrive qu'on assiste à un très grand déplacement nocturne sans qu'il y ait aucun mouvement le lendemain. Au contraire, les oiseaux se dirigent vers le sud-ouest malgré des vents de face. C'est pour ça qu'on étudie ce phénomène, pour en connaître davantage.
Puis, quand nous, on fait de l'observation, évidemment, c'est vraiment un privilège d'avoir, de pouvoir assister à ce genre de mouvement-là. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu de quoi ça a l'air lorsqu'on a des centaines de parulines? C'est quoi la sensation d'avoir ce genre de mouvement-là là, quand il y a des journées exceptionnelles là, où il y a des centaines ou voire des milliers d'oiseaux?
C'est assez spectaculaire quand on voit des milliers d'oiseaux passer, des parulines passer devant nous. C'est assez spectaculaire. Ce qui est impressionnant, c'est pouvoir, lorsqu'elles sont assez proches, pouvoir les identifier, connaître exactement l'espèce et pouvoir comme ça avoir des noms beaucoup plus précis que paruline non identifiée malheureusement, mais les chiffres peuvent monter très très haut. C'est vraiment je me considère extrêmement chanceuse de pouvoir vivre ça, ce qu'on a vécu exactement le 28 mai 2018. Donc ça a été des centaines de milliers de parulines qui ont été dénombrées cette journée-là. Ça a été une très belle surprise. Je me sens extrêmement chanceuse.
Et puis si je me souviens bien, cette journée-là constituait presque un record pour certaines espèces là, du nombre d'individus de certaines espèces observées dans toute l'Amérique du Nord ou n'importe où. Hein.
Oui, exactement. On a vécu une grande première. On a été dans le fond, l'équipe de l'Observatoire d'oiseaux de Tadoussac. Nous n'étions pas encore situés aux dunes. On était au quai de Bergeron, à 20 km au nord-est de Tadoussac, au quai des Bergeron, où le site est un petit peu plus enclavé, mais où on a pu dénombrer 200 000 parulines, ce qui a été une grande première. Une autre équipe était située aux dunes de Tadoussac, où eux, ils ont estimé 700 000 parulines, donc ce qui est énorme.
C'est vraiment effectivement énorme. Et puis donc, le recensement prend fin, je pense qu'il vient de terminer, si je ne me trompe pas, je vous attrape vraiment sur la fin. De quoi a eu l'air l'année 2020? Comment vous pouvez la comparer aux autres? Je ne sais pas combien d'années ça fait que vous le faites, puis comment vous décririez l'année qui vient de se terminer pour vous? Enfin, le printemps, disons, qui vient de se terminer, pas vraiment l'année, pas finie.
Dans le fond, chaque année est vraiment différente. On est à notre troisième année consécutive. On a débuté ça en 2018, même s'il y a eu des suivis auparavant depuis les dunes, au début des années 2000. Et puis également, il y a eu un suivi plus complet qui a été effectué en 2011. Mais chaque année est vraiment différente. En 2018, ça a été une année exceptionnelle. Puis à mon sens, on n'en vit qu'une seule dans sa vie. Et cette année, on a observé seulement deux journées de mouvement inverse de paruline. Ça a commencé le 22 mai où on a dénombré 11 000 parulines. Puis le 25 mai où quand même l'équipe a vécu sa troisième plus grande migration inverse avec 48 000 individus.
C'est déjà pas mal.
Donc, on est à la... Oui, exactement. C'est vraiment exceptionnel à ce moment-là. En 2011, il y a eu une magnifique, un beau passage aussi de paruline avec 52 000. Puis en effet, en 2018, l'année record.
Laetitia Desbordes, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment un plaisir de vous parler. J'espère qu'on aura d'autres opportunités de se parler de tous ces sujets-là.
Ça fait plaisir. Merci à vous.
C'est déjà tout pour cet épisode. Avec la nidification qui commence, on vous souhaite à tous de pouvoir observer certains des comportements les plus intéressants de nos oiseaux préférés, lorsqu'ils sont au nid, lorsqu'ils protègent leur territoire ou lorsqu'ils nourrissent leurs petits. D'ici là, Québec Oiseau a déjà plein d'idées et de nouveaux concepts à vous présenter dès le prochain épisode. Alors on vous invite à suivre, à vous abonner à la balado-diffusion et à rester alerte pour la sortie du prochain épisode. À la prochaine!